C'est un beau gosse, aviateur, qui se crache dans le désert torride du Sahara. Il essaie de faire son MacGyver avec trois allumettes et un rouleau de PQ pour réparer sa carlingue. Ça marche pas du tout. Alors il tape la pause comme un bolos. Et le lendemain, un petit com lui dit tout de go, « Dessine-moi un mouton gros !»
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Une des premières choses dont j'ai eu envie en imaginant cette nouvelle formule pour le Book Club de France Culture, en plus de nos émissions habituelles, je veux dire, c'était d'aller interroger régulièrement celles et ceux qui transmettent le goût des textes à l'école, au lycée particulièrement. Parce que les enjeux y sont grands, parce que je sais que beaucoup de professeurs ont cela très à cœur et qu'il peut se passer de véritables révélations entre des adolescents et des livres. Les récits que portent à ce micro chaque jour nos invités en témoignent d'ailleurs très souvent. Alors bien sûr, je n'imaginais pas que cette émission aurait aussi le goût amer et douloureux qu'elle peut avoir aujourd'hui en mémoire de Dominique Bernard, professeur de lettres récemment assassiné, et Samuel Paty dont le souvenir a été si affreusement réveillé. Mais raison de plus, au fond, pour consacrer ce book club à la transmission de l'amour de la lecture. Un book club qui réunit aujourd'hui profs et élèves autour des livres. Vers 15h50, nous prendrons justement des nouvelles des livres, mais en dehors de nos frontières, comme on le fait chaque jeudi. Grâce à la rédac internationale de Radio France, Sébastien Baer nous parle de littérature slovène, mise à l'honneur au dernier salon de Francfort. Et en fin d'émission, vos trouvailles de lecture nourrissent notre grand jeu des pages musicales, de sorte que nous nous quitterons sur un air d'opéra grâce à Emma Bovary. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Annabelle Gacquière.
Bonjour.
Vous êtes professeure de lettres au lycée Jehan de Chelles, à Chelles donc, en Ile-de-France. Et bonjour Solène Dalba.
Bonjour.
Vous êtes élève dans ce même lycée. Vous êtes dans la classe d'Annabelle en cours de français en première et vous avez aussi la chance de participer à son cours de théâtre, franchement. C'est super, un grand merci d'être avec nous autour de cette table. Bonjour Adélaïde François.
Bonjour.
Vous êtes professeur de lettres au lycée Val de Durance de Pertuis, ça c'est dans le Vaucluse. Vous êtes accompagnée de Joé Bruet-Pesse. Bonjour Joé.
Bonjour.
Oh là là, on va se vous voyez en classe de première en français. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir fait le voyage et à vous deux aussi, même si le voyage était un petit peu moins long. Alors ici, tout commence d'habitude par un questionnaire de lecture. On entreprend de faire le portrait de nos invités en tant qu'ils sont d'abord des lectrices et des lecteurs. On s'est dit qu'on n'allait pas exactement le faire de la même manière aujourd'hui, mais qu'on allait quand même faire un petit portrait rapide des lectrices que vous êtes. Peut-être on commence par vous, Annabelle Gacquière. Comment est-ce que vous vous décririez en tant que lectrice ?
Je dirais que je suis pas une lectrice, mais des lectrices, puisque mon métier me fait beaucoup lire, forcément. Et j'ai mes lectures professionnelles, je suis une lectrice professionnelle. Et puis, individuellement, je suis une dévoreuse, je suis quelqu'un qui a envie de découvrir beaucoup de choses. J'aime beaucoup la littérature contemporaine et pour moi, ça a toujours un petit peu le goût de la transgression, la lecture. Alors, du temps qu'on s'accorde et qu'on n'accorde pas à autre chose. Voilà.
Comment ça se répartit dans votre vie en tant que professeur de lettres, la part que vous donnez, on va dire, à la façon professionnelle de lire et puis à cette autre part plus personnelle ?
Eh bien, quand je dois préparer des cours, quand je prévois mon année, quand je prévois mes cours au fil de l'année, je vais aller, lire des ouvrages, soit les ouvrages que je vais donner à étudier si je ne l'ai pas encore fait, soit des ouvrages qui parlent des œuvres que je vais lire et faire lire. Et puis, pendant les temps de vacances, de week-end ou de pause, alors que je devrais corriger un paquet de copies parfois, je m'octroie quelques heures pour plonger dans un livre plus personnel.
Je m'imagine une journée de prof de français bien remplie, bien exténuante aussi. Vous avez encore la foi, le courage de lire quand le soir est venu ?
Ben, c'est vraiment pas le même type de lecture, oui, parce que la lecture est aussi au fondement de...
Ça recharge en fait.
Ça recharge, c'est au fondement de mon métier aussi. Donc,
Qu'est-ce qui vous a appris à être lectrice ?
Je pense que les livres ont toujours été présents dans ma famille, d'aussi loin que je me souvienne. Et je crois pas me souvenir du moment où j'ai appris à lire, où je suis devenue lectrice. Pour moi, ça fait partie de moi depuis vraiment toute petite.
Et est-ce que votre rapport à la lecture a influé le chemin que vous avez pris en devenant professeur de littérature?
Oui, mais tardivement. J'ai d'abord voulu être enseignante depuis très longtemps aussi.
C'est ça qui est premier dans le désir.
C'est ça qui est premier dans le désir du métier. Et puis, comme beaucoup, j'ai eu des enseignants, une enseignante de lettres en particulier qui m'a fait voir la littérature sous un autre jour au lycée, qui m'a fait découvrir des choses que je ne connaissais pas et qui m'a donné envie à mon tour de passer ce flambeau.
Première, seconde, terminale, vous vous souvenez ?
Seconde et première, mais particulièrement en première, c'est Madame Vallès.
Allez, franchement, c'est l'heure, c'est vraiment le jour où il faut faire plein de coucou à nos professeurs de français. Solène Dalba, vous êtes donc élève au lycée Jehan de Chelles. Si vous deviez vous décrire, peut-être on va glisser votre âge au passage. Quel âge vous avez ?
J'ai 16 ans et demi.
Vous avez 16 ans et demi. Si vous deviez vous décrire comme lectrice, vous diriez quoi ?
Je me qualifierais comme lectrice compulsive. Je lis quand je peux, partout, tout le temps.
Ok. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez pris les transports pour venir ici. Vous avez lu ?
J'ai lu, oui.
Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Qu'est-ce que vous lisez volontiers ?
Le genre horrifique. J'aime bien. Et puis, c'est un peu le mois pour, on va dire.
Ouais, parce qu'on approche d'Halloween.
Oui.
Et ça veut dire quoi, lire le genre horrifique, si on devait aller en librairie pour trouver ce que vous lisez en ce moment, Solène ?
Je dirais que je relis. Ouais. Un livre d'une autrice, Alex Bell, emmurée, de son ancien nom, c'était Frozen Charlotte. Je lis, c'est un plaisir à relire à chaque fois, du coup je le conseillerais.
Qu'est-ce que vous cherchez dans les livres que vous lisez, Solène ?
À m'informer sur ce que je ne peux pas voir, où je ne suis pas aussi. J'ai une soif de savoir et une curiosité.
Qui existe depuis que vous êtes enfant ?
Depuis que je sais lire.
C'est vrai ? Oui. Vous vous souvenez, c'est peut-être un petit peu moins loin, désolé. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire ?
À l'école et à la maison. Mes parents m'ont porté pour que je lise assez tôt et que, oui, je sois curieuse sur les futurs livres que je lirai et tout ça.
Et est-ce que vous départagez, vous aussi, les lectures qui relèvent de vos aventures personnelles, de votre plaisir, de tout ce que vous demande de lire Annabelle Gacquier pour le lycée ?
Je suis ouverte à tout, ça ne me dérange pas. Curieuse, beaucoup curieuse, oui, en effet. Et non, ça m'apporte beaucoup, que ce soit personnel ou alors imposé, entre guillemets, parce que ça reste un plaisir à lire. Soit n'importe quelle nouvelle, caractère, n'importe.
Lecture, vraiment,
oui, vraiment.
Tout ce qui relève de la lecture vous fait plaisir. Voilà. Ça fait du bien à entendre. Adénaïde François, vous diriez que vous êtes quoi comme lectrice ?
Moi, je dirais que je suis une lectrice qui s'identifie, en fait. C'est-à-dire que je me nourris des personnages, je deviens le personnage, je rêve du personnage, je pense comme le personnage. Et en fait, c'est vrai que comme je suis unique, et depuis petite, en fait, j'avais besoin d'aller dans des sagas, dans des familles. Par exemple, La Bicyclette Bleue. Et là, j'étais Léa Tavernier. J'étais Léa Delmas et je visualisais François Tavernier. J'adorais ça, en fait.
Et vous êtes restée ce genre de lectrice qui est comme ça, avide d'identification, très proche des personnages ?
Oui, et j'apprends aussi. J'apprends d'eux, je me nourris d'eux. Par exemple, je pleure beaucoup. Et puis, quand j'ai terminé mon livre, je le relis. C'est pour ça que je suis bloquée dans les classiques et j'adore les classiques. Et d'un coup, je vais étudier une œuvre et je me dis, tiens, ça me fait penser à Belle du Seigneur. Je vais relire des passages ou des extraits de Belle du Seigneur, mais des passages qui ont fait que je me suis construite, en fait. Et j'adore relire des passages comme ça qui me sont chers et que je vais utiliser comme pont, comme passerelle.
Est-ce qu'il y a une autoroute directe entre ce goût pour la lecture que vous décrivez et le fait qu'aujourd'hui vous enseignez les lettres ?
Pas forcément. Parce qu'avant d'être enseignante de lettres, j'étais enseignante de français langue étrangère. Et en fait, je dirais que c'est plutôt les mots, en fait. C'est que j'adore les mots, j'adore la langue. Et j'ai pas mal voyagé aussi. Et en fait, j'adore les langues, en fait. Et puis après, c'est un parcours de vie, c'est... qui m'a amenée, en fait, là où je suis aujourd'hui. Mais oui, les mots, en fait, et l'enseignement, ça a toujours fait partie de ma vie.
Dans les petits mots que vous échangiez, justement, avec Jeanne Aléos pour préparer cette émission, vous avez dit, ce métier-là, en fait, il m'a choisi. C'est une formule qu'on entend, mais peut-être, si on essaye de lui donner du poids et du sens, qu'est-ce que ça veut dire être choisi par le métier de prof, et peut-être plus singulièrement par le métier de prof de lettres ?
Ben, en fait, c'est depuis très tôt, très jeune, j'ai encadré, éduqué, donc je gardais une petite fille quand j'étais assez jeune, j'avais 16 ans. Et puis après, petit à petit, je suis partie à l'étranger, au Mexique. Et là, j'ai eu l'occasion de travailler dans une école pour des enfants réfugiés. Et du coup, je travaillais avec eux, avec un traducteur en dessous de ville. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré le contact avec les enfants. Et j'ai toujours adoré petit à petit enseigner, écouter, partager, échanger. Et puis ensuite, quand je suis revenue en France, je cherchais un métier en lien avec l'enseignement. Et en fait, j'ai décidé de me tourner vers enseignant de français langue étrangère. Et en fait, pour le partage, pour je sais pas comment dire, mais en fait partager avec les autres, discuter, échanger, et puis petit à petit j'ai suivi une route et puis une autre, et j'ai été enseignante, enfin j'étais AVS en CLIS, en inclusion scolaire, et puis j'ai toujours été dans l'enseignement petit à petit en fait, jusqu'à en arriver au lycée où je me suis laissée porter dans l'enseignement en fait.
Et vous voilà en salle de français à transmettre les textes, alors à des grands enfants, hein, quand même. La jeune fille qui est à côté de vous jouait Buépès. Comment est-ce que vous parleriez de votre rapport au livre, à la lecture?
J'ai toujours lu depuis que je suis petite. Ma mère, elle m'a transmis très tôt son amour pour les livres.
De quelle manière?
Pareil, elle m'a appris à lire assez tôt. Je me rappelle chez moi, avec dans les cahiers d'école, etc. Elle m'a toujours recommandé des livres, ce qu'elle aimait, etc. Je pense que c'est grâce à elle que je lis depuis petite.
Mais donc, elle venait vous voir et elle vous disait « Tiens, tu devrais prendre ça dans la bibliothèque » ou « Viens, on va à la bibliothèque
municipale ». Ça a commencé par celle qui me lisait des histoires, ouais. Voilà, pour m'endormir. Et oui, celle qui me recommandait. On allait souvent à la bibliothèque. Mm-hmm. Elle me faisait des cadeaux, elle m'offrait des livres.
Ça a circulé, quoi. Vous étiez dans une maison où les livres étaient là, on parlait des livres, on avait plaisir à en parler.
C'est ça.
Bon, rassurez-nous quand même, chers professeurs de français, ces deux jeunes femmes, elles sont pas complètement, rassurez-nous, je sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais représentatives de tous les élèves que vous rencontrez, parce que là, on pourrait avoir l'impression qu'on nage en plein paradis, où il y a que des familles, où les livres sont au milieu de la pièce, etc., etc. Qu'est-ce que vous rencontrez comme genre de profil dans vos salles de classe? Annabelle Gadequière.
Non, effectivement, c'est deux jeunes femmes. Je ne pense pas qu'elles soient complètement représentatives, en tout cas de la majorité de mes élèves. Après, je pense également qu'il y a beaucoup plus d'élèves et de jeunes lycéens qui lisent qu'on ne veut bien
le raconter. Temps, ouais.
Mais on a des lecteurs très, très divers. On a des élèves qui ne lisent pas du tout, qui sont dans l'évitement dès qu'on leur propose de lire quelque chose, qui font en sorte de ne jamais finir ou de ne jamais lire complètement les livres qu'on leur propose.
Si ça peut rassurer les gens, j'ai été de ceux-là. Voilà, je vous le dis. Je ne lisais que le strict minimum des tout petits extraits gentiment sélectionnés par mes profs de français. Voilà. Et depuis, ça va, j'arrive.
Voilà, j'espère que j'ai pas trop d'élèves qui écoutent aujourd'hui. Mais on a aussi des élèves qui lisent des choses qu'on ne leur propose pas, et puis qui rentrent assez facilement dans la lecture. C'est très variable, mais quand même, on en a un certain nombre qui lisent.
Est-ce que c'est un préalable quand vous commencez une année de français avec une classe de première? On va parler du niveau de première parce que Solène et Joé sont en première cette année. De discuter du rapport que chacun entretient avec la lecture. Est-ce que vous demandez, est-ce que vous faites un tour de classe? Est-ce qu'il y a des livres chez vous? Est-ce qu'on lit chez vous? Est-ce que vous avez accès à une bibliothèque? Est-ce que vous allez parfois en librairie? Est-ce que c'est des discussions que vous avez? Ou est-ce que c'est pas le lieu de ça, la classe, Adélaïde François?
Alors oui, on a ce genre de discussion, mais c'est vrai qu'en général, ça sort tout seul. En général, les élèves commencent par dire, enfin, on voit tout de suite ceux qui ne lisent pas, parce qu'en général, ils disent, madame, il fait combien de pages le livre? En général, c'est les questions que je peux entendre. Mais
comme une peur de se lancer, comme l'idée qu'on va s'ennuyer.
Oui, et puis surtout, peut-être aussi de se dire que d'un coup, d'un seul, il va falloir se concentrer, il va falloir rentrer dans quelque chose. Enfin, ça prend du temps aussi. Et c'est vrai que le temps, c'est quelque chose qui, pour les élèves, est une notion un petit peu différente de ce que nous, professeurs, on leur demande aussi. Et c'est vrai que peut-être une certaine angoisse de se retrouver seule face à leur livre et puis de devoir lire enfin. Et peut-être aussi, comme on attend des choses de cette lecture, ils angoissent un peu, qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'on veut qu'ils nous rendent,
Est-ce que ça se désamorce, l'idée qu'on peut avoir une certaine peur de la lecture, qu'on puisse pas nécessairement tous avoir les mêmes facilités? C'est vrai que vous parlez d'un goût, Joé et Solène, mais après tout, il n'est pas toujours partagé, ou peut-être il arrive à différents moments de la vie. Est-ce que vous dites ce genre de choses, Annabelle Gacquière?
Oui. Moi, je leur dis souvent que mon propos n'est pas d'en faire forcément des littéraires ou des amoureux de la lecture, même si j'ai un peu cette idée-là derrière la tête. Mais les enseignants de lettres, on est souvent nous-mêmes des grands lecteurs, on est des amoureux de la lecture, de la littérature, et on peut parfois avoir ce côté très enjoué, qui peut faire peur aussi, je pense, aux élèves. C'est-à-dire, elle y trouve un plaisir, elle y
trouve, que je ne connais pas encore,
quelque chose que moi je trouverai jamais ou que j'ai jamais trouvé, que je ne sais pas comment trouver. Donc c'est vrai que moi ça fait partie de mes pratiques aussi que d'essayer de désamorcer un peu tout ça, d'aborder les choses par différents biais, par des extraits, par des projets, parfois par le théâtre, parfois par autre chose. C'est aussi ce qui permet de un petit peu entrer dans ce monde à certains élèves qui n'y sont pas.
Sans citer de nom, Joé et Solène, est-ce que vous avez autour de vous comme ça des camarades qui ne comprennent pas, qui vous voient un bouquin à la main ou une liseuse et vraiment, ils vous demandent « mais qu'est-ce que tu peux bien y trouver ?»
Oui, il y en a qui trouvent ça ennuyant, mais il y a aussi, comme vous disiez tout à l'heure, moi j'ai des copines qui lisaient pas du tout et qui, par le biais des réseaux sociaux, par le biais des supports numériques, qui commencent à y trouver plaisir, qui découvrent des genres qui leur plaisaient, qui connaissaient pas forcément.
Et à quel endroit des réseaux sociaux ?
Notamment sur TikTok. Donc, vous savez, les hashtags, etc. Ça fait qu'on se dirige vers...
Vous savez les hashtags.
du coup,
expliquez-moi tout, s'il vous plaît.
On voit du coup du contenu qui nous plaît et on peut se concentrer sur une certaine catégorie. Et donc, il y a des TikTokers qui se spécialisent dans ça.
Ils parlent en fait avec ce hashtag du BookTok. Ils vont parler des ouvrages et vous donner envie.
C'est ça, on recommande, on note les lectures, on propose et ça peut donner envie d'acheter. Il y a les ventes qui augmentent selon ce que les influenceurs recommandent. Et
vous, ça marche ? Ça vous arrive d'aller voir comme ça, de vous rendre curieuse d'un livre évoqué sur les réseaux sociaux et d'y aller voir ?
Un petit peu, c'est surtout mes copines et après on échange, donc en fait on échange les livres, donc un livre que j'ai vu sur les réseaux sociaux, on se le prête ou voilà.
Pareil de votre côté, Solène ? Ça fait partie de vos pratiques ?
Oui, je dirais les BookTok, les BookTube aussi. C'est ce qui a commencé à...
Ça a nourri votre curiosité,
oui,
vous diriez?
Oui, je dirais ça. Et puis ça m'a aussi donné envie d'en faire.
Ah oui,
vous
en
faites aussi? Au collège, j'en avais fait un. Et oui, il y a certaines personnes qui pensent que ça leur fait peur, ils ne veulent pas. Et du coup, moi, je leur réponds. Donc, faut avoir peut-être un livre repère, lui qui va commencer à donner envie de dévorer beaucoup plus de livres, entre guillemets. Mais sinon,
vous avez un livre repère, vous ?
Non, je suis tellement curieuse que...
Oui, ça y est, le travail, il est fait, c'est bon. Vous êtes conquis, là, d'une certaine manière.
Voilà.
Bon, et on va aller bientôt en salle de classe pour évoquer concrètement comment ça se transmet, la littérature, notamment en classe de première, juste après ça. Keeps on coming. I've been all around. I'll keep on running till time catches on. Talking to you, time keeps on coming.
keeps on learning about you and me. I'll keep on loving, someday she'll love me.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Dans une tribune publiée peu de temps avant le bac français de juin 2023, le romancier français Thomas Béret-Verdi se désolait qu'on n'apprenne pas assez aux lycéens et lycéennes à être, je cite, des lecteurs et des lectrices. À être de celles qui poussent la porte d'une bibliothèque ou d'une librairie pour y flâner, pour y chercher conseil ou refuge, ou pour s'abreuver à ce qui reste une des principales sources du savoir et des représentations, à la fois la première pierre de notre civilisation et la première industrie culturelle de France, les livres. On n'apprend pas assez à pousser la porte d'une bibliothèque ou d'une librairie, écrivait-il encore, en faisant de l'histoire littéraire, en faisant du commentaire de figures de style. On apprend à le faire en lisant et en écrivant, comme disait Julien Gracq, professeur lui aussi. Et j'ajoute, c'est toujours Réverdi qui parle, on apprend en lisant des romans d'aujourd'hui, en écoutant des interviews d'auteurs vivants et en rencontrant, pourquoi pas. Fin de citation. Alors c'est sur un constat un petit peu plus optimiste, mais certainement moins documenté, que j'ai eu envie, en débutant cette nouvelle saison du Book Club, d'aller prendre régulièrement des nouvelles de la manière dont on apprend justement à être lecteur et lectrice au lycée. Comment ça se passe? À partir de quel texte? Dans quelle séquence? Autour de quelle discussion? Voilà, on va regarder plutôt le verre à moitié plein cet après-midi. On a la chance de le faire en compagnie de deux duos prof-élèves. Je vous les présente de nouveau. Annabelle Gacquière, vous êtes prof de lettres au lycée Jehan de Chelles à Chelles, en Ile-de-France, et Solène, qui est élève en première et aussi dans le cours de théâtre, et Adèle et François, qui est professeur de lettres au lycée Val de Durance à Pertuis, dans le Vaucluse, et Joé, qui est élève en première. Est-ce que vous avez un avis, peut-être je m'adresse plutôt à vous deux qui enseignez, autour de cette tribune dont j'ai cité quelques extraits, à savoir qu'on n'apprendrait pas assez, ou peut-être pas assez bien, si je reprends les mots de Réverdi, à être lecteur et lectrice au lycée? Annabelle Gacquière.
La difficulté quand on enseigne les lettres, c'est que je crois qu'on est constamment soumise à des injonctions complètement contradictoires et paradoxales. Il y a celles et ceux qui pensent qu'il faut apprendre les classiques, uniquement les classiques, que le patrimoine, y compris des choses qui n'intéresseront pas. Il y a celles et ceux qui pensent qu'il faut faire du, et c'est dans les programmes de français au lycée, faire des élèves des sujets lecteurs. Il y a
ça veut dire quoi?
C'est-à-dire l'idée de développer l'autonomie dans la lecture, de ne pas toujours justement passer par une voie professorale ou une voie autre pour lire. Il y a le rapport à la lecture, c'est quelque chose d'assez intime, et donc je pense qu'on est beaucoup de professeurs à surtout varier beaucoup les modes d'approche. Et oui, il y a les programmes, il y a aussi les épreuves du bac qui sont
on va en parler bien sûr
en première, ouais. Et qui imposent un rythme assez impressionnant. Il y a notre rapport personnel à la lecture, il y a le rapport des élèves, donc on essaye de jongler un petit peu avec tout ça pour justement faire en sorte que les élèves découvrent ce que peut être le goût ou le plaisir de la lecture.
Adélaïde François, sur cette question,
Est-ce qu'on n'apprend pas assez ou pas assez bien avec des lectrices et des lecteurs parce qu'on ne prendrait pas les bons chemins d'une certaine manière? Je me souviens de François Bégaudeau assis à ce micro il y a quelques jours, à qui je posais la question. Voilà, il a été lui-même professeur de français, il est romancier, et il disait que les conditions dramatiques de l'actualité l'empêchaient de dire tout le mal, je le cite, qu'il pensait de l'enseignement français. Il avait vraiment l'air de dire qu'on le fait pas assez bien, quoi. Alors pas vous, au bien sens sûr. Des professeurs individuellement, mais la manière dont c'est pensé, quoi.
Je pense que ça dépend parce que déjà ça dépend des enseignants, ça dépend de la classe qu'on a aussi, parce que parfois on peut avoir une classe très réceptive
et ça va marcher.
Et puis on va les nourrir parce qu'ils ont envie d'être nourris, et puis parfois on peut avoir une classe un petit peu plus lente peut-être, entre dans les apprentissages aussi, parce que du coup c'est vrai qu'il faut aussi
s'adapter.
Voilà, s'adapter, se caler aux exercices du bac aussi. Mais je pense que on peut tout à fait faire. Alors, je pense pas à l'élève forcément lecteur autonome, mais en tout cas faire en sorte que les élèves se plongent dans la lecture et qu'ils se motivent à lire et même à travers des classiques en fait, qu'ils prennent tout l'enseignement que ces lectures classiques peuvent leur apporter aussi, qui se retrouvent en ces lectures, par exemple.
On a demandé à la communauté du Book Club via l'Instagram, c'est Alexandra Labegovic qui a posé la question à tous les auditeurs et auditrices qui suivent la communauté du Book Club de France Culture, de quel livre, voilà, ils remercieraient toute leur vie l'école de leur avoir fait découvrir. Cette phrase n'est pas complètement française, mais j'imagine que vous avez compris l'idée. On va écouter les différentes réactions.
Ma prof de maths qui me laissait lire en cours me faisait des listes de recommandations sur des post-it. Ça m'a fait découvrir « La vie devant soi » d'Émile Ajar.
J'ai lu « Le grand môle » d'Alain Fournier en troisième.
Lorsque ma professeure de français nous a fait découvrir « Andromaque » de Racine,
j'étais la seule à être bouleversée par ce roman.
Je me souviens encore de l'émerveillement ressenti face à la beauté de ce texte.
Je rends hommage au prof de français que j'ai eu en troisième.
Notre prof de littérature en première nous a fait découvrir Hermanès
tout en forgeant notre esprit critique.
Narcisse Goldmund.
À travers une abondance d'extraits de toutes époques et de tous styles. En ne nous prenant
foulée,
ni pour des enfants attardés, ni pour des adultes trop précoces.
Fahrenheit 451,
mais pour une jeunesse en formation.
Cinquième, ça a été une claque.
Madame Bovary, lue en seconde,
Les Planches Courbes,
est une lecture inoubliable et enchanteresse.
Une déflagration.
En quasi-apnée.
Et puis on l'a étudié à fond, car il était au programme du bac L.
De ne plus avoir la possibilité
de lire
ce texte
pour la
première fois,
dès que l'âme
et de ressentir
a
toutes mes émotions
réconfort.
De première lecture.
Le Père Goriot de Balzac m'a beaucoup
Je n'ai jamais aimé qu'on m'impose un livre. J'avais toujours un blocage et c'était
J'ai eu la chance d'avoir des professeurs formidables.
Antigone
qui m'ont ouvert
J'ai relu plus tard et qui est aujourd'hui
en plus
un
d'avoir
de
des
chevet.
Parents pour qui la lecture
Les mots
était l'un
de
des
Jean-Paul
aspects
Sartre.
Essentiels de la vie
en seconde,
et de l'éducation.
J'ai lu Moderato Cantabile.
En seconde, avec
Mon
ma prof
m'a
de
donné
français,
le sentiment
Madame
de
Siegel.
Décrypter un langage secret.
Ça a
On
été la découverte de ma vie.
On s'amusait avec mes copines à jouer et à mettre en scène les pièces de Molière les mercredis après-midi.
J'ai ensuite
après-midi.
Lu tout son théâtre,
des bons souvenirs.
Ses romans.
J'ai découvert la littérature bien après l'école.
Un immense merci à tous nos auditrices et tous nos auditeurs de la communauté du Book Club qui ont témoigné. Comme ça, on n'a pas tout mis, on en a mis beaucoup, mais en tout cas, ça a reçu beaucoup de réponses, cette question d'Alexandra Labegovic, des traces laissées par l'enseignement du français au lycée. Et donc voilà, on se dit qu'en effet, il y a des traces et qu'il se passe des choses, forcément. Alors, on passe un peu aux choses, on va dans le dur. Que demande le ministère? Vous travaillez dans quel cadre? Alors, voilà, si on se dit, ok, c'est quoi l'enseignement du français en première? Annabelle Gacquière, qu'est-ce qu'il faut raconter?
L'enseignement du français, déjà c'est l'enseignement donc des lettres, c'est-à-dire qu'on doit enseigner aussi bien la langue, on a une partie grammaire, on doit enseigner la littérature et on doit préparer en première des exercices qui sont ceux des épreuves anticipées de français, donc les EAF, le fameux bac de français qui existe toujours et qui comporte à la fois un écrit de 4 heures. Donc soit une dissertation littéraire sur œuvre, soit un commentaire littéraire sur texte inconnu, et un oral sur un texte qu'on a étudié dans l'année, avec également une question de grammaire et un entretien sur une lecture personnelle.
Ça, ça a beaucoup bougé, parce que ça ressemble grosso modo à mon bac d'il y a 20 ans, mais...
Oui, ce qui a bougé, c'est sans doute la dissertation qui est sur œuvre, pour les séries générales en tout cas, alors qu'avant c'était une dissertation plus large. Il y avait aussi un autre exercice qui s'appelait l'exercice d'invention, qui n'existe plus. Et à l'oral, ce qui change, c'est que c'est une explication de texte linéaire, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a une question de grammaire à l'oral qui n'existait pas avant non plus.
En effet.
Voilà. Et puis la troisième partie était un peu différente. Et donc ces épreuves se préparent par le biais de quatre objets d'études. Donc on a quatre grands chapitres, quatre grands thèmes qui sont liés à des genres littéraires et à des périodes au sein desquels on doit étudier des œuvres intégrales, c'est-à-dire des œuvres en entier, par exemple La Bruyère, Les Caractères.
Ça vous est donné?
Voilà, on a un choix à faire pour chaque genre. On a un choix à faire entre trois œuvres.
Okay.
Et chaque œuvre est accompagnée de ce qu'on appelle un parcours, c'est-à-dire une thématique, une problématique autour de laquelle on va travailler et sur lesquelles on va proposer des textes un petit peu plus différents.
Okay. Et ce parcours-là, il vous est imposé ou c'est vous, en tant que professeur de français, qui vous dites « Ok, La Bruyère ou cette œuvre-là, je vais le traverser de cette manière-là » ?
Alors, c'est imposé.
Alors en fait, ce qui est imposé, ce sont les titres et le parcours. Si je prends Les Caractères de La Bruyère, je dois forcément travailler les livres 5 à 10 des caractères. Et la problématique, enfin le parcours qui l'accompagne, c'est forcément la comédie sociale du 16e au 18e siècle.
Okay.
Et à l'intérieur de ça, c'est moi qui vais complètement imaginer le parcours d'études, les thématiques que je vais aborder, les textes que je vais choisir, les extraits que je vais choisir, les textes qui accompagnent, les œuvres iconographiques qui peuvent apporter un support à cette étude, les activités, etc.
Et ça, vous le décidez quand, Annabelle Gacquier ?
Quand on a les programmes.
J'aimerais que vous alliez dire, quand j'ai le temps, en fait. Aussi. Quand j'ai trois secondes pour respirer.
Alors, en fait, souvent, on travaille déjà l'été. On prépare notre année. On conçoit pour chaque niveau de classe notre programme. Dès lors qu'on a les classes dans lesquelles on va enseigner, parce qu'on ne sait ça qu'au mois de juillet, en général. Donc après, on prépare ça. Et puis, au fur et à mesure des séquences, on affine en fonction de nos élèves, nos classes. Des choses qu'il y a à revoir peut-être avec certaines classes ou des projets qui viennent se greffer aussi et qui prennent du temps, qui nous obligent à adapter parce qu'on le veut bien, mais voilà.
Bon, mais on va se lancer. Alors on va vous écouter, Solène, dans une lecture des caractères de La Bruyère.
Pamphile ne s'entretient pas avec les gens qu'il rencontre dans les salles ou dans les cours. Si l'on en croit sa gravité et l'élévation de sa voix, il les reçoit, leur donne audience, les congédie. Il a des termes tout à la fois civils et hautains, une honnêteté impérieuse et qu'il emploie sans discernement. Il a une fausse grandeur qui l'abaisse et qui embarrasse fort ceux qui sont ses amis et qui ne veulent pas le mépriser. Un Pamphile est plein de lui-même, ne se perd pas de vue. Ne sort point de l'idée de sa grandeur, de ses alliances, de sa charge, de sa dignité. Il ramasse, pour ainsi dire, toutes ses pièces, s'en enveloppe pour se faire valoir. Il dit « mon ordre, mon cordon bleu ». Il l'étale ou il le cache par ostentation. Un Pamphile, en un mot, veut être grand, il croit l'être, il ne l'est pas, il est d'après un grand. Si quelquefois il sourit à un homme du dernier ordre, à un homme d'esprit, il choisit son temps si juste qu'il n'est jamais pris sur le fait. Aussi, la rougeur lui montrait-elle au visage s'il était malheureusement surpris dans la moindre familiarité avec quelqu'un qui n'est ni opulent, ni puissant, ni ami d'un ministre, ni son allié, ni son domestique. Il est sévère et inexorable à qui n'a point encore fait sa fortune. Il vous aperçoit un jour dans une galerie et il vous fuit. Et le lendemain, s'il vous trouve en un endroit moins public ou s'il est public, en la compagnie d'un grand, il prend courage, il vient à vous et il vous dit « Vous ne faisiez pas hier semblant de nous voir ». Tantôt, il vous quitte brusquement pour joindre un seigneur ou un premier commis, et tantôt, s'il les trouve avec vous en conversation, il vous coupe et vous les enlève. Vous l'abordez une autre fois, et il ne s'arrête pas. Il se fait suivre, vous parle si haut que c'est une scène pour ceux qui passent. Aussi, les pamphiles sont-ils toujours comme sur un théâtre, gens nourris dans le faux, et qui ne haïssent rien tant que d'être naturels. Vrais personnages de comédie, des Floridors, des Mondori.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Je ne sais pas si vous applaudissez les uns les autres en classe, mais je fais un très grand bravo à Solène Dalba, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir lire les caractères de la Bruyère en direct à la radio. Est-ce que vous voulez nous dire deux, trois mots, Solène, de votre rapport à ce texte, comment il vous a été présenté en classe? Est-ce que ça fait partie des cours de français d'apprendre à lire à haute voix? Est-ce que vous le faites en classe parfois?
Oui, pour lire, avoir une sorte d'avant-première, de comme se mettre dans le bain. Et sur les axes qu'on va avoir. Moi, j'aime particulièrement les caractères, enfin l'axe qui est en cours. J'aime bien les moralistes, du coup, moi, ça m'a toujours intéressée et j'ai bien aimé.
Vous vous souvenez comment il a commencé le cours sur les caractères de la Bruyère?
Non.
C'était un jeudi, à 9h30, elle est rentrée en classe, Annabelle Gacquière. Non, alors peut-être je m'adresse à vous, Annabelle Gacquière, vous vous souvenez comment vous entrez dans cette séquence-là?
Alors on a commencé par le parcours, on a contextualisé sur le XVIIe siècle et pour le coup on a commencé par d'autres textes donc autour de la question de la comédie sociale et comme c'était aussi le début de l'année, on a commencé par des textes du XVIIe siècle qui pouvaient être peut-être un peu plus familiers. Et le premier texte qu'on a abordé, c'est la fable Les animaux malades de la peste de La Fontaine. Ce qui nous a permis d'aborder les questions justement liées au genre de l'argumentation au XVIIe siècle. La question des moralistes, la question de comment on transmet une idée, quelle vis on va pouvoir, de la société on va pouvoir critiquer, dépeindre, etc. Et puis après, on est passé à une lettre de Madame de Sévigné. Et puis, on est arrivé petit à petit, on a travaillé en parallèle sur des thématiques qui étaient dans l'œuvre des caractères. Par exemple, la question de la Bruyère, observateur de son temps, de l'universalité de la morale et des moralistes, ce genre de choses. Les élèves ont ensuite lu les caractères de la Bruyère, accompagnés d'un parcours de lecture, avec des petites questions qu'ils ont rendues en devoir, qui devaient.
Le parcours, ça c'est vous qui le bâtissez et oui. Vous leur donnez. C'est comme leur guide dans la lecture.
Voilà, un guide de lecture. Alors on le fait pas systématiquement ni pour toutes les œuvres, mais c'est vrai que des œuvres comme les caractères de la Bruyère, c'est pas évident à appréhender quand on a 17 ans et que c'est la langue du XVIIe siècle et les références du XVIIe siècle. Donc là, il y avait un petit parcours de lecture qui les invitait à aller repérer la variété des styles, un portrait, une maxime, la manière dont c'était écrit. Et après la lecture, donc je leur ai présenté Pamphile comme étant donc justement un des exemples d'un portrait en littérature. Et puis l'idée c'est aussi en choisissant ce portrait-là de donner à lire des formes différentes qui vont leur permettre d'avoir des exemples, une vision enfin un peu large de la question de la morale au XVIIe siècle. Donc une fable, une lettre, un portrait, et puis ensuite il y a un ensemble de remarques et de maximes qui vont arriver.
Comment ça se passe en cours? Donc on prend cet extrait en particulier, des caractères de la Bruyère. Est-ce que vous faites entendre le texte dans un premier temps? Est-ce que il y a une discussion qui s'ouvre avec la classe? Ou est-ce que, vous disiez tout à l'heure, en fait on a aussi une somme de savoir à transmettre qui fait que le temps il est réduit et il faut quand même aussi avancer, quoi?
Alors, moi, j'essaye de fonctionner avec pas mal de variétés. Alors oui, je donne à entendre le texte dans un premier temps, de toute façon.
C'est vous qui le lisez ?
Pour la première lecture, oui. Parce qu'il faut le donner à entendre de manière à ce qu'il puisse être compris. Après, il y a souvent un petit moment de compréhension littérale du texte, parce que surtout sur ce genre de texte, il y a des points de vocabulaire, des points de syntaxe.
Mais c'est les élèves qui lèvent la main, qui disent là, j'ai pas bien compris, ou c'est vous qui dites peut-être.
Ah non, moi je vais lancer par exemple en disant alors ok, de quoi ça parle, quel est l'intérêt de ce texte, comment, qu'est-ce que vous en avez compris, est-ce qu'il y a des points d'achoppement développement? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent peu claires? Et puis, moi, j'ai bien sûr travaillé le texte avant. Et donc, si la question ne m'est pas posée, mais que je sens qu'il y a des points de vocabulaire, par exemple, qui peuvent être un peu mal compris, j'y vais. Voilà. Et puis après, il y a un travail de la classe dessus. Donc, parfois, on les met par petits groupes de 3, 4. Ils vont aller farfouiller, se battre avec le texte, comme je dis.
Ah ouais?
Ouais, il faut rentrer dedans. Et puis, voilà.
Ça prend quelle forme, se battre avec le texte, Solène?
Je découpe en morceaux, on va dire.
vous êtes assis, vous êtes avec plusieurs élèves de la classe et vous vous attelez au texte, vous le décortiquez, vous y cherchez des choses. Ça ressemble à ça?
Oui, ça va dépendre du texte proposé. Ça va être soit en îlot, soit faire un mélange de classes.
En îlot, ça veut dire que vous êtes autour d'une table à 4, 5, 6?
Oui, 4, 5, oui. Ou alors en binôme aussi. Binôme, ça dépendra. Ou alors si on veut le faire seul aussi, on peut.
Tout à l'heure, Annabelle Gacquière, quand on préparait l'émission, disait que ça donnait lieu à des battles, à des petites batailles d'analyse. C'est-à-dire, vous dites quoi? Attends, moi j'ai trouvé ça. Attends, moi j'ai trouvé ci. C'est ça?
Oui, on a notre propre interprétation de certains passages, certaines citations qu'on va relever. Ça va être personnel et on va essayer de débattre pour savoir. Mais il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. On prend de tout.
Et vous avez plaisir aussi, parce que tout à l'heure on a commencé par parler de votre goût les unes et les autres pour la lecture. Évidemment, j'imagine que quand on est chaque, enfin moi personnellement, quand je suis chez moi, quand je lis un livre, je surligne pas, je suis pas en train de décortiquer le premier mouvement. Oui. Ça c'est quelque chose qu'on fait quand même quand on apprend, quand on est en classe. Oui. Vous aimez aussi ce rapport au texte?
Oui, oui.
Vous aimez autant de le décortiquer que d'en avoir plaisir dans sa...
Mais le lire par forme de loisir, ça ne me dérange pas, les deux.
Vous êtes vraiment une sympathique. On va changer de classe, on va aller dans le Vaucluse et on va vous écouter. Joé Buet-Pesse, vous allez lire, vous, un extrait de Manon Lescaut.
Comme je demeurais debout, les yeux baissés et la tête découverte. « Asseyez-vous, monsieur, » me dit-il gravement. « Asseyez-vous. » Grâce au scandale de votre libertinage et de vos friponneries, j'ai découvert le lieu de votre demeure. C'est l'avantage d'un mérite tel que le vôtre de ne pouvoir demeurer caché. Vous allez à la renommée par un chemin infaillible. J'espère que le terme en sera bientôt la grève et que vous aurez effectivement la gloire d'y être exposé à l'admiration de tout le monde. Je ne répondis rien. Il continua. Qu'un père est malheureux lorsque, après avoir aimé tendrement un fils et n'avoir rien épargné pour en faire un honnête homme, il n'y trouve à la fin qu'un fripon qui le déshonore. On se console d'un malheur de fortune. Le temps l'efface et le chagrin diminue. Mais quel remède contre un mal qui augmente tous les jours, tel que les désordres d'un fils vicieux qui a perdu tout sentiment d'honneur. Tu ne dis rien, malheureux ? Ajouta-t-il. Voyez cette modestie contrefaite et cet air de douceur hypocrite. Ne le prendrait-on pas pour le plus honnête homme de sa race? Quoique je fusse obligée de reconnaître que je méritais une partie de ces outrages, il me parut néanmoins que c'était les porter à l'excès. Je crus qu'il m'était permis d'expliquer naturellement ma pensée. « Je vous assure, monsieur, lui dis-je, que la modestie où vous me voyez devant vous n'est nullement affectée. C'est la situation naturelle d'un fils bien-né, qui respecte infiniment son père, et surtout un père irrité. » Je ne prétends pas non plus passer pour l'homme le plus réglé de notre race. Je me connais digne de vos reproches. Mais je vous conjure d'y mettre un peu plus de bonté et de ne pas me traiter comme le plus infâme de tous les autres. Je ne mérite pas des noms si durs. C'est l'amour, vous le savez, qui a causé toutes mes fautes. Fatale passion, hélas! N'en connaissez-vous pas la force? Et se peut-il que votre sang, qui est la source du mien, n'ait jamais ressenti les mêmes ardeurs? L'amour m'a rendu trop tendre, trop passionné, trop fidèle, et peut-être trop complaisant pour les désirs d'une maîtresse toute charmante. Voilà mes crimes.
Bon, on a un casting de rêve, on va pas se mentir quand même. On a des élèves qui font des lectures en direct absolument parfaites ici. C'est un extrait de Manon Lescaut de l'abbé Prévost, publié en 1731. Sur la fiche du cours, ça s'appelle « La confrontation de Desgrieux avec son père à la prison du Châtelet ». Je vois déjà vraiment un immense bravo à vous aussi, Joé, pour cette lecture. Je vois qu'il y a plein de petites couleurs comme ça sur la page. C'est quoi ?
C'était pour m'aider dans la lecture, dans quand est-ce que c'est la narration, quand est-ce que le père parle, quand est-ce que le fils répond.
C'est vous qui l'avez fait, c'est vous qui l'avez préparé comme tel pour vous aider dans la lecture.
Oui, ouais. Avec Madame François.
Alors si on essaie de dérouler rapidement Adélaïde François la séquence de cours autour de Manon Lescaut, ça se passe comment?
Alors, tout d'abord, je commence toujours mes séquences de la même manière, c'est-à-dire que je contextualise et je commence en général par une photo ou un tableau. Et là, j'ai choisi Le Verrou de Fragonard parce que je voulais contextualiser le XVIIIe siècle et puis aborder le libertinage. Et puis ensuite, doucement, je les amène dans la découverte du roman, en fait. Et là, ce roman est un petit peu compliqué au niveau historique, chronologique. Et du coup, il se situe en fait sur une durée de 4 ans, en fait, de 1712 à 1716. Et donc, il faut aborder le contexte historique de Louis XIV jusqu'en 1715.
Donc, vous faites un peu d'histoire, en fait.
Un peu d'histoire aussi, oui, oui. Je me documente beaucoup parce que... les chiffres, ce n'est pas très bon fort, ni les dates. Et puis ensuite, aborder la Régence, justement, avec un contexte plus libéral, et avec Philippe d'Orléans. Et puis ensuite, revenir sur, sur Louis XV.
Voilà. Alors, quand est-ce que vous arrivez au texte en tant que tel?
Et ensuite, on arrive, on aborde l'auteur aussi. Et puis ensuite, on aborde... J'aborde aussi un corpus, en fait, parce que j'interprète les termes du parcours, en fait. Et les termes du parcours de Manon Lescaut sont « personnage en marge, plaisir du romanesque ». Donc, du coup, j'échange avec mes élèves sur justement ce qu'ils comprennent dans ces termes-là, par personnage en marge, par romanesque.
Mais déjà au regard du texte, ils ont déjà entendu le texte lorsque vous avez ce genre de discussion?
Non.
Non.
Avant.
Là, vous êtes vraiment sur les termes,
ouais,
du parcours avec,
ouais,
eux.
Ouais, ouais. Okay. On parle d'abord des termes. Et qu'est-ce que pour eux la marge? Qu'est-ce qu'un personnage en marge? Est-ce que durant leur lecture passée, ils ont rencontré un personnage en marge, par exemple? Et puis ensuite, je pose ma première lecture. Et celle-ci, c'est pas la première, hein. C'est la deuxième. La première, c'était la rencontre des Grieux avec Manon Lescaut. Et ensuite, je choisis mes textes par rapport au parcours aussi, la manière dont ils vont pouvoir l'éclairer. Et je l'ai choisi aussi par rapport à l'intérêt que les élèves peuvent y trouver.
Donc quand le texte arrive, finalement, il arrive sur un tapis bien moelleux. Plein de choses ont été en fait très bien préparées pour qu'il ait déjà une forme d'éclairage, de lumière. Même question qu'Annabelle, c'est vous qui faites la première lecture?
Oui, c'est moi qui fais la première lecture et d'une manière un petit peu particulière. C'est-à-dire que je demande à mes élèves de fermer les yeux, de mettre leur tête sur le bureau. Et ils adorent parce qu'on
comme à la radio.
Ritualise, voilà. On ritualise ça et à chaque fois que je leur dis aujourd'hui on fait une lecture linéaire, ils me disent ah, on fait dodo, c'est le petit côté. Et en fait, et je leur demande ça parce que déjà moi je peux faire ma lecture expressive, c'est-à-dire je peux bouger, je peux et eux ils se concentrent sur ma douce voix mélodieuse.
C'est vrai, vous avez
et ils ne regardent pas par la fenêtre et je veux vraiment qu'ils fassent le vide dans leur tête et qu'ils entendent mon texte, en fait. Voilà, la manière dont je le lis et qu'il se fasse une première idée.
Ouais. Est-ce que vous avez des souvenirs de la manière dont ce texte a été discuté en classe, Joé?
Globalement, un peu tous les textes mènent à débat. Du coup, là, c'est l'opposition du point de vue du père et le point de vue du fils. On en parle beaucoup, même en dehors des cours. L'œuvre était intéressante. On en a beaucoup parlé.
Quand vous dites on en parle beaucoup, c'est-à-dire carrément faites-nous rêver, vous prenez Manon Lescaut et
non.
Dans la cour de récréation, vous dites ah, t'as vu quand même, dans ce dialogue entre le père et le fils, etc. Non, sérieusement.
Non, mais plutôt quand on parle des travaux qui sont à rendre, qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce que t'as marqué, qu'est-ce que tu penses de la fin du livre, voilà, la morale.
Quel genre de travaux étaient à rendre autour de ce texte-là, Adélaïde?
Alors, ce texte-là, on a échangé sur l'intemporalité, en fait, sur la manière dont ce texte pouvait être transposé aujourd'hui, et sur de repérer surtout. Alors, on a travaillé en lecture linéaire, comme on doit le faire pour, parce que c'est un texte pour l'EAF. Donc, et en fait, on a.
Je leur ai demandé de faire en avance pour le français.
Presque
un truc comme ça.
Épreuve anticipée.
Évaluation en avance. Exactement, voilà.
Et ensuite, ils ont dû... individuellement, je leur demande de repérer les mouvements dans lesquels le texte progresse. Et ensuite, ils ont dû faire une introduction sur ce texte-là. Voilà, ils ont dû faire une introduction et ensuite relever les procédés comme on peut le faire pour une lecture linéaire.
Ça, c'était un devoir.
Ça, c'était à faire. Alors, on le commence ensemble, on travaille ensemble. Et puis ensuite, comme là, c'était une séance sur 2 heures, ça bascule pour le lendemain et qu'il le fasse un petit peu seul, c'est-à-dire repérer toute la matière du texte, en fait. Quoi, ce qu'ils comprennent, pourquoi ils le comprennent. Et le lendemain, on repart dessus, ligne par ligne, on continue à faire parler.
Vous êtes les profs de français de rêve, parce que regardez, l'heure de cours est passée comme ça. Un immense merci à vous, Annabelle Gacquière, à vous, Solène Daleba, à vous, Adélaïde François, et à vous, Joé Buet-Pes, d'avoir été avec nous pour évoquer la transmission des textes aujourd'hui dans le Book Club. Un grand merci. Peut-être à bientôt, peut-être on se donne des nouvelles. Restez avec nous.
France Culture. Le Book Club, Marie Richeux.
Il est 15h50 dans le Book Club, on reçoit de la visite tous les jours et le jeudi on prend des nouvelles du livre, mais en dehors de nos frontières. Aujourd'hui, cap sur la Slovénie, c'est un pays de 2 millions d'habitants qui était l'invité d'honneur de la 75e foire internationale du livre de Francfort qui vient de fermer ses portes. La Slovénie donc est située entre, moi aussi je suis mon petit prof de géographie, entre les Alpes et l'Adriatique. C'est un pays assez peu connu sur la scène littéraire et pour cause, c'est pas facile d'exister quand on écrit en slovène parce que trouver des traducteurs et des traductrices est un vrai défi. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Berlin, vous étiez justement à la foire du livre de Francfort, on l'a dit. La Slovénie est un tout petit pays, mais ça n'empêche pas les écrivains et les poètes de foisonner.
Effectivement, après l'Islande et l'Estonie est rapportée au nombre d'habitants, la Slovénie est le pays qui compte le plus d'écrivains au monde. Environ 5000 livres sont publiés chaque année, c'est considérable car c'est 3 fois plus qu'au moment de l'indépendance en 1991. Et parmi les auteurs les plus connus, on peut citer Boris Pahor, disparu l'an dernier à 109 ans, que vous avez peut-être découvert grâce à son roman « Pèlerin parmi les ombres » dans lequel il raconte sa déportation, ou encore Franze Prešeren, qui est considéré comme le plus grand poète slovène, la poésie qui occupe d'ailleurs une très large place puisque 400 recueils sont publiés chaque année. Tous les ans, la Slovénie récompense ses auteurs avec de nombreux prix littéraires. En 2015, Ljubljana, la jolie petite capitale, a reçu le titre de ville créative de la littérature décerné par l'UNESCO. Les Slovènes aiment les livres. 1 sur 5 est inscrit dans une bibliothèque contre 1 Français sur 10 en moyenne.
On est jalouse. Comment est-ce qu'on explique justement le poids qu'a la littérature en Slovénie, le fait qu'elle soit à ce point présente, répandue, défendue?
Eh bien, elle a toujours joué un rôle important, encore plus sous la dictature de Tito, quand l'écriture permettait de faire entendre sa voix. Et puis la Slovénie, qui a pour voisin, rappelons-le, moi aussi je fais mon prof de géographie, l'Italie, la Hongrie, l'Autriche et la Croatie, est au carrefour de plusieurs cultures. Elle a aussi vécu près de 1000 ans sous influence étrangère, d'abord sous domination bavaroise, avant de faire partie de l'Empire austro-hongrois, puis de rejoindre plus tard la Yougoslavie. Tout cela est évidemment très inspirant. Une autre raison est plus pragmatique. L'Agence du livre slovène accorde de généreuses subventions aux auteurs et traducteurs, et le réseau des 250 bibliothèques publiques achète aux maisons d'édition quasiment toutes leurs publications, ce qui contribue à diffuser la culture dans le pays et encourage les auteurs.
Ouais. Alors justement, ces auteurs et ces autrices slovènes, quelles sont leurs sources d'inspiration, Sébastien ?
Alors vous ne serez pas surprise, Marie, si je vous dis que beaucoup d'écrivains font le récit de la grande histoire de ce petit pays. Ils évoquent les 2 guerres mondiales, la Yougoslavie socialiste, la guerre d'indépendance du début des années 90. Un exemple avec Drago Jančar, c'est l'un des auteurs slovènes les plus connus au monde, prix du meilleur livre étranger 2014 pour son roman « Cette nuit, je l'ai vu » qui est disponible en français aux éditions Phébus. Dans presque tous ses ouvrages, l'auteur, âgé de 75 ans et que j'ai croisé à Francfort, raconte l'histoire de la Slovénie.
Quand j'avais 7 ou 8 ans, et aussi plus tard, j'entendais toujours parler de la guerre, de l'occupation, des prisons, de la Gestapo. Donc c'était profondément enfoui dans mon subconscient. Et j'ai décidé d'écrire sur les choses que je connaissais et que j'avais entendues ou apprises. J'écris sur le quotidien et sur les réactions des gens, sur ceux qui ont trahi, sur ceux qui étaient courageux. Cette histoire est universelle. Et même si j'écris sur le microcosme slovène, j'écris sur l'Europe tout entière.
On commençait, Sébastien, en évoquant justement le défi pour chaque auteur slovène de se faire connaître quand on vient d'un tout petit pays et qu'on écrit dans une langue qui est si peu parlée dans le monde.
Effectivement, l'équation est simple et compliquée à la fois. 2 millions de personnes dans le monde seulement parlent le slovène. Donc, pour être lu en dehors des frontières, il n'y a qu'une solution, être traduit. Pour des traductions du slovène vers l'anglais, pas de problème en général. Mais pour les autres langues, c'est là que se trouve le défi, explique Mija Kovač. Il est éditeur et auteur, traduit en 6 langues.
Pour une langue comme la nôtre, c'est très compliqué. Par exemple, on a seulement un traducteur pour le turc. Donc s'il tombe malade, on n'a plus de traducteur pour cette langue. C'est la difficulté que l'on a. Et pour une bonne traduction, vous ne pouvez pas la faire avec une machine. Mais bon, il y a 30 ans, aucun auteur slovène n'était traduit. Aujourd'hui, nous sommes presque 80. Pour chaque auteur, une nouvelle traduction est une satisfaction, même si c'est un petit marché. Je viens d'être traduit en Azerbaïdjan, et pour moi, c'est une grande victoire.
Et petit à petit, la littérature slovène se fait une place sur la scène internationale. En 10 ans, le nombre de romans traduits du slovène a doublé. Il y a eu 200 traductions l'année dernière.
C'est passionnant. Tout ça, est-ce qu'on prend un petit instant, Sébastien, pour, je ne sais pas par où commencer. Est-ce qu'on veut découvrir la littérature slovène et on achète quoi, on lit quoi, on découvre quoi?
Alors, vous avez le choix, Marie, entre une dizaine d'auteurs slovènes qui sont traduits en français et parmi les plus connus, le philosophe Slavoj Žižek, qui est l'auteur aussi le plus traduit, qui sonde nos sociétés en profondeur. Je citerai aussi parmi les contemporains Brina Svit. Elle vit à Paris depuis 1980 et elle écrit en français. Et dans son roman « Visage slovène » paru en 2013 chez Gallimard, elle évoque l'identité, l'âme slovène. Et puis au rayon poésie, on en parlait tout à l'heure, eh bien je retiens Franze Prešeren. Son recueil est paru en France en 2013 chez l'éditeur Esopi, un très grand auteur que son pays a décidé d'honorer en faisant du jour de sa mort un jour férié. C'est assez rare. Vraiment, je me permets un dernier conseil. Il faut prendre le temps de découvrir les auteurs de ce petit pays qui passe souvent inaperçu et à propos duquel Tomáš Šalamún écrivait dans l'un de ses poèmes « Ne somnole pas dans le train Vienne-Trieste, cher lecteur. La Slovénie est si petite que tu pourrais la manquer. » J'ajouterais, Marie, ne manquez pas l'arrêt au rayon littérature slovène.
Ouais, surtout si vous avez la chance de prendre ce magnifique train de Vienne à Trieste, un bon bouquin, merveilleux. Un immense merci Sébastien. On peut vous réécouter Lecture sans frontières sur franceculture.fr. Et je vais vite car c'est déjà la fin de l'émission, c'est l'heure du grand jeu des pages musicales. J'espère que tous vos collègues et élèves nous écoutent et voudront jouer. En gros, dès que dans vos lectures vous rencontrez n'importe quelle évocation d'un petit air musical, vous faites une photo, vous l'envoyez via l'Instagram du Book Club et nous, on pioche dedans tous les jours. La trouvaille du jour, on la doit à Hélène, elle nous l'a envoyée via le mail lebookclub@radiofrance.com. C'est un extrait de Madame Bovary de Gustave Flaubert, je le rappelle, paru en 1857. Emma Bovary est à l'opéra. Elle écoute, mais elle n'écoute pas la musique parce qu'elle est occupée à ressasser ses souvenirs d'amour avec Léon. Dès la première scène, il enthousiasma. Il pressait Lucie dans ses bras, il la quittait, il revenait, il semblait désespéré. Il avait des éclats de colère, puis des râles élégiaques d'une douceur infinie, et les notes s'échappaient de son cou nu, pleines de sanglots et de baisers. Emma se penchait pour le voir, égratignant avec ses ongles le velours de sa loge. Elle s'emplissait le cœur de ces lamentations mélodieuses qui ne se traînaient à l'accompagnement des contrebasses comme des cris de naufragés dans le tumulte d'une tempête. Elle reconnaissait tous les enivrements et les angoisses dont elle avait manqué mourir. La voix de la chanteuse ne lui semblait être que le retentissement de sa conscience et cette illusion qui la charmait, quelque chose même de sa vie. Mais personne sur la terre ne l'avait aimé d'un pareil amour. Il ne pleurait pas comme Edgar, le dernier soir au clair de lune, lorsqu'il se disait « à demain ». La salle craquait sous les bravos. On recommença la strette entière. Les amoureux parlaient des fleurs de leur tombe, des serments, d'exil, de fatalité, d'espérance. Et quand ils poussèrent l'adieu final, Emma jeta un cri aigu qui se confondit avec la vibration des derniers accords.
Au son aujourd'hui, c'était Florent Bujon, à la réalisation Lise Combe. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, Marianne Chassor, Didier Pinault, Mathilde Wagman, Oriane Delacroix, Anouk Delfino. Et un immense merci tout spécial à Jeanne Aléos qui a si brillamment mis cette émission sur pied. Très bel après-midi à vous sur France Culture.